Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Lors de notre dernière rencontre, nous avons commencé à nous intéresser au yoga. Nous avons mis l'accent sur sa conception originale et pertinente de l'âme humaine, notamment en lien avec des notions essentielles de l'étude de la psyché qui nous sont familières en Occident. Le yoga, en tant qu'école philosophique traditionnelle de l'hindouisme, vise une chose, que la conscience ne s'identifie plus au je, J-E, ou pour le dire autrement, au moins illusoire, mais que la conscience parvienne à s'identifier au soi individuel, puis dans une ultime étape, au soi universel. Pour ce faire, le yoga vise à l'arrêt des modifications du mental qui sont représentées par la dualité, la séparation, la division, l'éparpillement. Cet arrêt des modifications du mental doit permettre à la conscience de se concentrer pour parvenir à s'identifier enfin avec le soi. Lorsque l'on y parvient, c'est ce que l'on appelle l'état de samadhi. La question de la dualité, et donc des conflits psychiques qui en découlent, nous intéresse particulièrement. Revenons dans un premier temps à Freud. L'un des éléments centraux de la vision freudienne du développement de la psyché est la notion de castration. Si bien que les trois grandes structures psychologiques, que sont les névroses, les psychoses et les perversions, se définissent selon le rapport de chaque sujet à la castration. Les effets structurants de cette séparation subie, reconnue, acceptée, ou pas, sont à l'origine de nos conflits psychiques. Cependant, Freud concevait la psyché comme un système fonctionnant selon un principe d'inertie, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Selon ce principe d'inertie, l'appareil psychique fonctionne de manière à ce que la quantité d'énergie du système, c'est-à-dire la quantité d'excitation que la psyché reçoit et doit gérer, soit nulle et maintenue ainsi. Vers la fin de son œuvre, Freud rebaptisera ce fameux principe d'inertie en principe de nirvana, ayant pris connaissance de ce concept issu du bouddhisme qui correspond à un état d'extinction des sens et des désirs. Dans le yoga, cet état de retrait du monde des sens et des désirs correspond à l'état de samadhi. La différence essentielle entre la psychanalyse et le yoga s'articule autour du moyen de parvenir à cet état d'inertie, de nirvana ou de samadhi. Pour Freud, nous sommes castrés et à jamais castrés. Ce qui veut dire que l'idée même d'une union qui permettrait de s'extraire de cet état de dualité intérieure est impensable. Cet état d'arrêt des modifications du mental est inconcevable, mais on y tend sans cesse. On devrait même plutôt dire, on y est poussé en permanence sous l'effet des pulsions de mort. Car, selon Freud, seule la mort peut nous permettre d'atteindre un tel état d'extinction des sens et des désirs. Et les pulsions de vie ne seraient qu'un ensemble de forces qui nous aideraient à supporter notre existence. Le yoga, au contraire, présente un ensemble de concepts et de techniques qui permettraient à l'être humain d'atteindre cet état de samadhi, de son vivant. Et cette différence entre la psychanalyse et le yoga est, comme je l'ai précisé, essentielle. Poursuivons nos parallèles entre le yoga et nos concepts occidentaux de compréhension de l'appareil psychique à travers les travaux de Jung. Très tôt dans sa carrière, Jung s'est intéressé aux conflits psychiques pour finalement élaborer une vision de l'appareil psychique et des processus qui l'animent très différents de ceux de Freud. Pour Jung, la notion de conflit psychique est fondée sur l'impossibilité apparente d'acquiescer à la totalité de la nature humaine, qu'il nomme le soi. Tant que nous ne sommes pas parvenus à prendre conscience de cette totalité, de cet état unifié qu'est le soi, nous sommes dans la dualité, la séparativité, à l'origine des conflits. Ces conflits psychiques se cristallisent autour de couples de termes antinomiques, mais indissociables. C'est-à-dire qu'il nous est impossible de parler de l'un des termes sans aborder le terme opposé, tellement ils sont liés. Par exemple, le jour et la nuit, le bien et le mal, l'homme et la femme, le conscient et l'inconscient. Tout le travail analytique proposé par Jung consiste à passer d'un état de conflit psychique où ces différents termes s'opposent à un état d'unification intérieure où ces termes finissent par se compléter. Le soi étant un état ultime de la psyché où l'ensemble de ces termes continue à exister par eux-mêmes et ne s'opposent plus, mais se complètent et s'unissent afin qu'émerge un troisième terme qui les transcende. Pour essayer de comprendre ce qu'est le soi, et pour faire simple, prenons par exemple le cas d'un enfant. Cet enfant est le résultat de l'union d'un homme et d'une femme. D'un point de vue biologique, il est moitié l'un et moitié l'autre. Cependant, il n'est ni cet homme ni cette femme. Il est une troisième entité bien distincte. Et en grandissant et en devenant de plus en plus indépendant, il restera certes toujours fils ou fille de un tel et de une telle, mais cet enfant finira par exister par lui-même et pour lui-même. Eh bien, c'est à peu près ça, le soi, selon Jung. À ce détail près que c'est un état d'unification intérieure, et non pas extérieure comme peut l'être un enfant. Mais en général, avec l'exemple de l'enfant, on comprend mieux. Maintenant, je vous invite à réfléchir à ce que pourrait être cet état d'unification transcendant entre le bien et le mal, le jour et la nuit, le conscient et l'inconscient. Ainsi, vous saurez si vous avez accédé à la totalité de la nature humaine, pour reprendre les termes de Jung. Voilà en ce qui concerne la question des conflits psychiques et la notion de soi chez Jung. Nous y reviendrons d'ici peu pour aborder les liens avec le yoga. Mais avant cela, intéressons-nous à la question du principe d'inertie, de nirvana ou de samadhi. Pour Jung, l'appareil psychique est un système relativement clos dans lequel la quantité d'énergie est stable. Cependant, la psyché n'est pas forcément inerte. Tout dépend de la dynamique psychique en lien justement avec les conflits psychiques dont nous venons de parler. Pour faire simple, l'état d'opposition, de dualité, d'éparpillement, bref, les conflits psychiques, sont à l'origine d'une mise en mouvement plus ou moins intense de l'énergie psychique. Alors que l'état d'unification intérieure fige l'énergie psychique, si bien que lorsque l'on atteint au soi, état d'unification intérieure totale et complet, on peut effectivement parler d'état d'inertie. Cet arrêt définitif des modifications du mental, pour faire le lien avec le yoga, correspond à un état de retrait du monde des sens et des désirs. Le sujet est concentré sur sa réalité intérieure transcendante et ne subit plus les modifications de son environnement. Voilà donc une autre perspective que celle développée par Freud, qui n'est pas plus ou moins juste, la vérité absolue dans ce domaine n'existe pas, mais qui est radicalement différente de celles prônées par la psychanalyse. On peut choisir de les opposer, position intellectuellement plus facile à adopter pour l'une ou l'autre des parties, ou tenter de trouver à quel point ces positions se complètent pour qu'émerge une pratique qui soit la plus pertinente possible pour celles et ceux qui nous sollicitent. Maintenant, nous allons justement essayer de relier toutes ces notions, intéressantes mais très théoriques, avec une approche plus technique, notamment à travers l'analyse des rêves. Pour cela, il faut garder à l'esprit que la représentation de la psyché est très différente entre l'Occident et l'Inde. Chez nous, nous avons pris pour habitude de lier l'appareil psychique au cerveau et à son fonctionnement. Mais bien que nous jonglions avec les notions d'inconscient et de conscient, il nous est impossible de déterminer où tout cela se trouve concrètement dans notre cerveau. En Inde, que l'on soit dans une perspective hindouiste ou bouddhiste, la psyché est liée à l'ensemble du corps. À notre corps physique se superpose un corps énergétique subtil, traversé de canaux d'énergie, appelés nadis, et ponctué de centres d'énergie plus connus sous le nom de chakras. L'ensemble de ces éléments, que nous allons découvrir, apparaissent bien entendu dans les rêves. C'est d'ailleurs pour cela qu'après notre cycle sur la psychosomatique, j'ai souhaité poursuivre avec le yoga, car c'est une autre vision de la relation psyché-soma qui vient révéler quelque chose de tout aussi juste sur le lien entre le corps et l'âme, mais avec une symbolique différente qui lui est propre. De nos jours, un nombre non négligeable de personnes se montrent méfiantes vis-à-vis de la médecine dite allopathique, voire s'en détournent complètement. De plus en plus de personnes recherchent des approches dites douces, c'est-à-dire non-invasives et pas uniquement basées sur la prescription médicamenteuse. Ces personnes vont chez des médecins homéopathes, des acupuncteurs, des énergéticiens en tout genre. C'est-à-dire des professionnels qui travaillent le plus souvent sur le lien entre le corps physique et le corps subtil, en prévention des risques, mais aussi en palliation des symptômes. L'analyse des rêves, avec comme grille de lecture le yoga, et plus particulièrement les chakras, se révèle à nouveau un outil de diagnostic très précis, notamment pour orienter les soins prodigués par d'autres professionnels, et qui permet aussi et surtout d'interroger la cause. Alors, ce corps subtil se superpose au corps physique dans une orientation clairement verticale. Ce corps subtil est composé, selon la tradition, de 7 chakras principaux. Commençons par le Sahasrara, ou chakra coronaire, souvent décrit sous la forme d'un lotus à 1000 pétales qui trône au sommet de la tête. Il est en lien avec nos idées, nos pensées et surtout avec notre système nerveux central. Il représente l'état de conscience le plus élevé. En descendant, on trouve l'ajna, plus connu sous le nom de chakra du troisième œil. Situé au niveau de la glande pinéale, il est en lien avec la vue et l'ouïe, et dans une certaine mesure l'odorat, mais également avec tout le système endocrinien. Ensuite, le Vishuddha, ou chakra de la gorge, situé à la base de la gorge justement, il est en lien avec la communication et les organes qui s'y rapportent, de la bouche aux poumons, ainsi que les bras. Puis l'anahata, ou chakra du cœur, situé au centre de la poitrine, au niveau du thymus, ce chakra est donc en lien avec le système sanguin, mais également le système immunitaire. Il est aussi à l'origine des émotions, des sentiments, des affects. Puis le manipura, ou chakra du plexus solaire. Il gouverne l'ensemble de l'abdomen et tout particulièrement le système digestif. Puis le Svadhisthana, ou chakra sacré, situé au niveau des organes sexuels. Il est en lien avec les désirs physiques et la reproduction. Enfin, notre descente nous mène au Muladhara, ou chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Il est en lien avec l'activité excrétoire du corps humain, mais aussi les jambes. D'une manière plus large, il correspond à nos racines physiques, mais aussi et surtout à nos racines psychologiques. À l'opposé du Sahasrara, il représente l'état de conscience le plus bas, qui correspond au tréfonds de notre inconscient occidental. La notion d'inconscient est totalement absente de la vision indienne de la psyché. Il n'y a que la conscience qui s'identifie à des états plus ou moins illusoires, à des états plus ou moins unifiés. Pour rappel, le but du yoga est que la conscience ne s'identifie plus au moi illusoire, mais qu'elle s'identifie au soi personnel puis au soi universel. C'est ainsi qu'à la base du Muladhara, le chakra racine, on trouve la Kundalini, souvent représentée par un serpent lové, endormi, qui représente cette énergie unifié, sommeillant au fond de nous et que l'on peut identifier comme le soi individuel. Le but étant dans un premier temps de parvenir à réveiller cette belle endormie. La conscience s'identifie alors au soi individuel. Puis dans un second temps, il faut que la Kundalini, cette énergie unifiée, remonte à travers les différents chakras jusqu'au sommet de la tête, au niveau du Sahasrara, le chakra coronaire. Ainsi, la conscience s'identifie désormais au soi absolu. C'est le véritable état de samadhi. Pour parvenir à cette ascension ultime, le corps subtil est parcouru par des canaux d'énergie qui relient les différents chakras. Voici les trois principaux. À droite, on trouve le canal d'énergie masculine, nommé Pingala, qui correspond à l'animus chez Jung. À gauche, on trouve le canal d'énergie féminine, nommé Ida, qui correspond à l'anima chez Jung également. Et au centre, le long de la colonne vertébrale, se trouve le canal Sushumna, le long duquel s'élève la Kundalini éveillée. L'ensemble de ces éléments et leur symbolique associé a été un sujet d'étude important pour Jung lorsqu'il s'est aperçu qu'ils apparaissaient effectivement dans les visions et dans les rêves de ses patients. Nous reprendrons plus en détail dans la prochaine émission cette question-là afin de montrer l'intérêt de la symbolique des chakras dans une analyse. En attendant, voici un rêve pour illustrer ses propos. C'est un rêve très court d'un homme d'un certain âge. Il remarquait que dernièrement, ses rêves l'amenaient à revivre des épisodes de sa vie. En l'occurrence, il se trouvait à New York, à Broadway plus exactement, puis il se rendait à Central Park pour finir au Muséum d'Histoire Naturelle. Tout comme cet homme, vous auriez raison de penser qu'a priori, il n'y a aucun lien entre New York et l'Inde et que la grille de lecture des chakras n'est alors d'aucun intérêt. Sauf que Broadway, en tant que rue, est un des axes structurants de la ville de New York et que pour aller du quartier de Broadway au Muséum d'Histoire Naturelle, il suffit d'aller tout droit, sans détour, à travers Central Park. On retrouve donc ici, à travers cette direction, la verticalité de l'être et les canaux qui permettent à l'énergie de circuler dans le corps subtil. Chaque étape représentant alors un chakra. Mais lesquels ? Nous allons le découvrir. Son chemin se termine au Muséum d'Histoire Naturelle, lieu qui retrace l'histoire de notre planète grâce à l'exposition notamment de fossiles, de squelettes et autres représentations. C'est donc un lieu où est entassée une somme d'informations et de souvenirs, parfois très lointains, on pourrait même dire archaïque, sur l'histoire de la vie sur Terre. Ce lieu-là, au niveau du corps subtil, correspond au Mooladhara, le chakra racine où s'entassent nos souvenirs les plus lointains. Central Park, seul parc boisé de Manhattan avec ses étangs, correspond donc au Svadhisthana, le chakra sexuel, et en remontant encore, on retrouve le Manipura avec le quartier de Broadway, Times Square. À travers la reviviscence de ce voyage à New York, le rêveur descend en réalité au plus profond de son être, de son inconscient, pour revisiter son histoire dont il a gardé, sans même le savoir, les détails les plus archaïques. Nous poursuivrons sur la symbolique des chakras en lien avec l'analyse des rêves lors de la prochaine émission. À la prochaine fois, et d'ici là, faites de beaux rêves.